à rebours. Chaque jour, une capsule d'histoire avec André Martineau.
C'était les sirènes qui... C'était sinistre en dents. Les camions, les voitures, tout le monde essayait de se sauver. Personne ne pouvait pas apporter grand-chose.
Dans la nuit du 6 au 7 mai 1950, un tiers de la ville de Rimouski est disparu dans les cendres. On a surnommé cet événement la Nuit Rouge. Hier, je racontais dans cette capsule comment le vent nourrissait un feu hors de contrôle, ravageant autant les maisons que les commerces et les institutions.
2 heures de la nuit, le firmament est rouge. Il fait clair 10 000 à la ronde, à ce qu'on utilise.
Il faut se souvenir que durant le feu, il n'y a pas d'électricité. Les lignes entre la station de radio CJBR, la station locale, et l'antenne de diffusion étaient coupées. Alors comment faire pour informer les gens en direct?
Il nous fallait enregistrer des émissions au studio, partir avec ses bobines, aller passer ça à l'émetteur.
Et plus tard, l'annonceur de radio est monté directement sur l'antenne avec son micro. Parfois, il faut ce qu'il faut.
Pour mieux informer dans les conditions où on était.
Le message se rend jusqu'aux grandes villes, assez pour que le lendemain, toutes les petites routes de campagne passées 3 pistoles soient complètement bouchées à cause des curieux et des journalistes qui se sont précipités dans le bas du fleuve.
Voyage pénible et exténuant dans des chemins quasi impraticables. Dès notre arrivée à Rimouski au milieu de l'après-midi, nous sommes à même des hauteurs de Sainte-Odile de mesurer l'ampleur du désastre.
En 1950, Gilles Vigneault était finissant au séminaire de Rimouski.
Tout le monde se hâtait lentement. Et moi, je me rappelle... C'est une scène à laquelle j'ai assisté.
Une bonne partie de la nuit, Vigneault et ses camarades aident à sauver une bibliothèque appartenant au docteur Drapeau.
Qui était considérable et extrêmement cultivé.
Malgré les flammes, les tisons et la fumée partout, les habitants gardent leur sang-froid. On pouvait craindre le pire, les scènes de pillage, etc., mais finalement, pas grand-chose. On raconte par contre comment plusieurs en ont profité toute la nuit pour aller se servir... entre guillemets, à la commission des liqueurs.
La commission a été vidée gentiment.
C'était pas le temps de le dire, c'est pas cassé une bouteille.
Non, pas cassé une bouteille. Puis les gens, c'était pas...
Il y a des moments où les gens font pas d'erreur.
Et on aidait comme on pouvait.
Moi, j'ai vu autre chose.
Mais tu as une idée?
On est entré chez une dame, 3 étudiants. Et il y avait un petit gars à sortir d'en haut. Bon, il y en a un qui a pris le petit gars, puis l'autre a pris le petit camion parce qu'il pleurait après son camion, c'était pas le feu, lui. On est descendu avec le petit gars et le camion, puis là, il y a une dame qui nous a arrêtés, puis elle disait « Faut que vous remontiez. » Seulement, le toit était à la veille de s'écrouler. « Faut que vous remontiez. Sauvez ma statue de Saint-Joseph. » Ben là, les gars là, se sont regardés, hein, 3 étudiants. On avait prié la veille, on avait prié le matin, on avait été à la messe 2 fois tous les jours pendant 8 ans. Ça fait que là, Saint-Joseph, on le connaissait par cœur, on savait qu'il comprendrait que si on boycottait un peu sa statue, il sera pas insulté. Puis quand on est arrivé en bas, puis que le toit s'est écroulé, elle nous a expliqué que dans sa statue, il y avait 18 000 $.
Gilles Vigneault, qui se souvient de l'incendie de Rimouski au micro de Pierre Paquette en 1988. Je continue demain sur l'incendie de Rimouski, car, après les flammes, il fallait bien reconstruire.
Pour écouter les autres capsules sur le web, visitez radiocanada.ca/@rebours.